Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'inquiétude gagne les EHPAD après le décès d'une femme de 89 ans dans l'Oise.
Cette troisième victime du coronavirus en France souffre également d'autres pathologies. Elle a été testée positive après sa mort. Les représentants des maisons de retraite sont reçus ce matin au ministère de la Santé. Avec cette question, comment faire barrage au virus? On sait que les personnes âgées sont les plus exposées. Jacques Serret, vous l'avez constaté directement lors de votre reportage à l'EHPAD du Parc à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. On n'y entre plus comme dans un moulin.
Oui, pour rentrer dans cet établissement de 100 résidents.
Si, si, vous aussi, monsieur.
Il faut montrer patte blanche.
La solution hydroalcoolique, vous aussi, monsieur.
Sur une table à l'entrée, chaque visiteur doit se désinfecter les mains, indiquer s'il s'est rendu récemment dans une zone à risque. Mais ce n'est pas tout.
Ensuite, l'hôtesse propose une prise de température frontale.
Des masques sont également à disposition. Florence Barthélémy est la directrice médicale du groupe Emera.
On est parti des mesures de prévention de la grippe. Les deux sont des virus respiratoires, donc il y a pas mal de mesures à prendre qui sont du même ordre. Bon, c'est le mieux qu'on puisse faire.
Dans la pièce d'à côté, en atelier information, l'animatrice de l'EHPAD évoque justement ces mesures.
Alors, quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, on leur demande de se laver les mains et on leur prend la température. Si tous, on les laisse pas rentrer.
Et cela semble rassurer les résidents.
Est-ce que vous avez peur? Ça vous effraie ou pas?
Non, on va mourir, c'est son
heure.
Alors, Madame Chimette, il y a un autre âge, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Non. Bah non. C'est plutôt pour les enfants et puis les adultes.
Ah bon, je suis pas pressé de partir. Hein.
Non, moi, ça me fait tout à fait rien.
Cette situation n'a en tout cas pas affecté leur sens de l'humour.
Et ça, on l'entend. Merci. Oui. Reportage signé Jacques Serret. La France compte désormais 191 cas de contamination et les professionnels de santé sont de plus en plus nombreux à tirer la sonnette d'alarme. À ce rythme, les hôpitaux seront vite débordés. C'est ce que dit le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Tourcoing, le professeur Éric Senneville.
Si on regarde le virus 2003, en termes de virulence, c'est-à-dire la capacité de tuer un patient, le SRAS était bien plus inquiétant. Le seul problème, c'est que le coronavirus actuel est un virus qui a l'air de se répandre quand même extrêmement facilement, même si sa mortalité est plus faible. Et donc, à terme, les conséquences sur le fonctionnement seront et sont déjà, on le constate déjà, beaucoup plus importantes que le SRAS de 2003. Donc, globalement, c'est une épidémie bien plus menaçante, bien plus grave que ce qu'on en a connu en 2003.
L'avis du professeur Éric Senneville de l'hôpital de Tourcoing avec Franck Hanson.
Et comme d'habitude, nos médecins généralistes sont en première ligne. À 8h20, je recevrai Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Le salon du tourisme qui devait accueillir plus de 10 000 visiteurs à Paris est à son tour annulé. 100 000 visiteurs, excusez-moi.
Il devait ouvrir dans 10 jours. Comme pour le salon du livre, on ne prendra pas le moindre risque. Les annulations d'événements se multiplient. Le dîner du CRIF prévu ce soir avec Emmanuel Macron est reporté. Le président, vous le savez, a libéré son agenda pour se consacrer exclusivement au coronavirus qui a déjà, bonjour Martial Youp,
bonjour,
qui a déjà des conséquences sur notre économie. C'était à redouter, mais maintenant vous avez des chiffres et ils sont sans appel. Alors d'abord, pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui n'avait pas besoin de ça.
Bah effectivement, puisque le secteur vient de subir en 18 mois les gilets jaunes, les grèves et maintenant le coronavirus. Selon le syndicat professionnel GNI Sinorca, depuis le début de l'épidémie, un tiers des hôtels et restaurants ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 10 à 20%. C'est pire, bien sûr, pour les restaurants asiatiques qui ont été les premiers touchés ou pour les discothèques qui atteignent 30% de baisse de leur activité.
Autre victime collatérale, les traiteurs.
Oui, et c'est sans doute là que c'est le plus inquiétant d'ailleurs, parce que les annulations de salons, on en parlait, de séminaires, elles se multiplient depuis une semaine, on est actuellement sur une baisse de 20% du chiffre d'affaires et ça va encore augmenter. Les plus exposés sont les traiteurs de région parisienne et de Rhône-Alpes. Quand le salon est annulé, bah c'est un chiffre d'affaires définitivement perdu. Mais quand les événements sont reportés, comme le rendez-vous des voitures de collection d'Avignon ou le salon d'art contemporain de Lille, eh bien cela sera moins rentable pour les traiteurs parce que les organisateurs vont faire appel à des extras, comme on dit, des contrats sur lesquels on appliquera le malus sur les CDD. Les professionnels sont reçus à Bercy ce matin. Ils vont demander un moratoire sur ce malus justement et sur les charges sociales ainsi qu'un report des échéances de remboursement de prêts.
Merci pour ces chiffres Martial Youp. Dans le reste de l'actualité, de nouveaux départs à La République en marche. Deux députés viennent de claquer la porte suite à la décision du gouvernement de passer par le 49-3 pour faire voter la réforme des retraites. C'est en fin d'après-midi que seront débattues et rejetées sans suspense les deux motions de censure déposées par l'opposition. Le gouvernement a dû faire face à une confiscation, à une captation du débat par les extrêmes, dénoncé sur RTL il y a quelques minutes. Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État chargé des retraites.
RTL, il est 8h05.
Ça gronde aussi contre les nouvelles épreuves du bac.
Oui, les fameuses E3C pour épreuves communes de contrôle continu. Certains élèves et profs font toujours de la résistance. 41 000 copies manquent encore à l'appel parce que des lycées n'ont toujours pas réussi à organiser les examens. Ça représente un peu plus de 2% du total des copies de cette première session d'épreuves d'histoire géo, de langue vivante et de maths en classe de première.
Alors, a priori 2%, ce n'est pas grand-chose, mais cette fronde est-elle vraiment marginale, comme le dit le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer? Eh bien, c'est la question du 8.
Avec vous, Marie Guerrier, bonjour.
Bonjour.
S'il n'y a plus qu'une minorité de contestataires, les choses devraient rentrer rapidement dans l'ordre maintenant.
Non, ce n'est pas si simple, parce que même s'il n'y a que 2% de copies manquantes et une vingtaine de lycées en difficulté, on est dans une impasse. Blocage aux entrées des établissements, fumigène à l'intérieur, les E3C déjà reportés deux fois par endroit. Le ministère va devoir trouver une issue. Les solutions envisagées, délocaliser les épreuves dans des lycées plus calmes, infliger un zéro aux élèves qui réitèrent leur refus de passer les E3C, tout ça laissera des traces. Et puis, ces questions, est-ce que ça va recommencer après les vacances de printemps, quand il faudra lancer la deuxième session de 3C, et faudra-t-il encore par endroit appeler la police pour permettre aux élèves d'entrer dans leur lycée? Et même là où ça s'est déroulé normalement, il y a des récriminations, lourdeur de l'organisation, sujet qui circule sur Internet, soupçons de rupture d'égalité.
Ça veut dire qu'il y aura des changements?
Oui, le comité de suivi de la réforme y travaille. Il réunit les représentants des enseignants, des lycéens, des parents, des personnels de direction, et des annonces sont prévues la semaine prochaine autour du 11 mars. Assouplissement du calendrier des épreuves, organisation allégée, rendre public par exemple la banque de sujets, plusieurs propositions sont sur la table, mais derrière tout ça, il y a des résistances plus profondes et l'on voit ressurgir le débat pour ou contre le contrôle continu dans la note du bac.
Les questions du 8h avec Marie Guerrier. Quel candidat face à Donald Trump? Les démocrates cherchent leur champion aux États-Unis. Ils seront peut-être fixés dès demain. A tout de suite.
RTL 8h07. Renault.fr.
RTL Matin.
RTL, il est 8h08. La suite du journal, Jérôme Florin, Yves Calvi.
Aux États-Unis, nous voici arrivés au jour le plus important de la campagne démocrate.
C'est ce mardi que tout se joue avec le vote simultané de 14 États, dont les plus peuplés, la Californie et le Texas. Deux lignes s'affrontent, c'est la gauche de Bernie Sanders et la centriste portée par Joe Biden, la cible préférée de Donald Trump. Biden qui vient d'enregistrer plusieurs ralliements, hein, Philippe Corbet.
Oui, tout s'accélère. Plusieurs candidats centristes, Buttigieg, Klobuchar, se retirent et appellent à voter Joe Biden, qu'ils ont pourtant distancé. Tout a changé depuis l'écrasante victoire il y a deux jours de l'ancien vice-président d'Obama dans la primaire de Caroline du Sud, grâce à l'électorat noir. Biden est désormais surnommé Lazare, comme ressuscité.
Just a few days ago.
Il y a encore quelques jours, la presse et les commentateurs annonçaient que cette campagne était morte. Mais mon message à tous ceux qui ont été cognés, écartés, abandonnés, c'est votre campagne.
Les centristes s'empressent de se rassembler derrière Biden pour empêcher, s'il en est encore temps, le favori Bernie Sanders, plus à gauche, de tout rafler aujourd'hui. C'est lui qui a collecté le plus d'argent, qui a le mieux labouré le terrain, particulièrement dans l'État qui pèse le plus lourd, la Californie, ici, où il s'est moqué de la fébrilité des centristes.
Maintenant, l'establishment politique, vous le rendez très nerveux.
Si Sanders s'impose aujourd'hui, comme l'indiquent les sondages, eh bien, il sera très difficile pour Biden de le rattraper.
Philippe Corbet qui suit ce Super Tuesday en Californie pour RTL. Israël tourne la page de la plus longue crise politique de son histoire. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, pourtant inculpé, notamment pour corruption, s'impose face à son rival Benny Gantz. Il aura fallu 3 élections législatives en moins d'un an. Scrutin marqué par une participation en hausse 71%.
Il est 8h10.
RTL, Municipal 2020.
Il y aura 10 listes communautaristes aux municipales.
Chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, on les trouve notamment à Garges-lès-Gonesse, Jouy-les-Tours, Annecy et Nanterre. À Montpellier, le Rassemblement National débarque sa tête de liste. Il avait sur sa liste un homme condamné l'an dernier par la justice pour des publications sur sa page Facebook. Il n'y a pas qu'à Levallois que la politique est une affaire de famille. On vous emmène ce matin en Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, où le maire sortant
et son ex-femme, qui elle-même a dirigé la commune par le passé, s'affrontent devant des électeurs parfois incrédules. Julien Fautra.
Il semble si loin, le temps où, à la une de la presse locale, main dans la main, le bras levé, ils célébraient ensemble leurs victoires électorales.
Entre guillemets, c'est Dallas. C'est au devant de la scène. Là,
Ferrand et Ferrand, LR et LR.
Pourquoi pas, c'est une première peut-être.
Comme s'il y avait des Balkanais qui s'affrontaient.
Alors de choisir, ou Joël ou Alain, beaucoup d'habitants sont décontenancés.
Je suis pressé parce qu'on m'attend à la maison.
Écoutez monsieur, excusez-moi, au matin j'ai un rendez-vous. Je suis bien tranquille comme ça.
Je trouve ça un peu bizarre. J'habite ici mais je suis allemand. Ça c'est pas ma culture.
Ils ont fait un tas de bien aux gens. Les gens après ils font fi un peu de tout le reste. Hein.
Tout le reste, une référence aux affaires. Alain Ferrand cède sa place de maire à son épouse en 99 après une condamnation pour abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt. Joël Ferrand devient inéligible à son tour pour prise illégale d'intérêt en 2011. Qui lui succède ? Alain Ferrand, bien entendu. Depuis, le couple a éclaté. Pas encore divorcé, mais bel et bien séparé. Aucun n'a accepté d'interview. Pour Joël Ferrand, il faut se contenter de cette vidéo audacieuse.
Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle ? Il y a tellement à faire, par caresse charnelle.
Heureusement que le ridicule ne tue pas. On aura tout vu. No comment.
Une candidate d'opposition, Virginie Brodin, peine à tirer son épingle du jeu, tant le couple Ferrand a fait main basse sur le Barcarès.
Dans ce bel univers,
les barques sont en amont.
C'est parce qu'ils ont plus de voix que de voix. Hein. Et après, merci Julien Fautra, et après Dallas au Barcarès, direction Hollywood, pour dans le Périgord, où Ridley Scott a posé sa caméra pour le dernier duel. C'est le nom de ce film qui se déroule au Moyen-Âge, avec entre autres, tenez-vous bien, Matt Damon et Ben Affleck, mais... sans vous, Denis Grandjoux, même si vous avez tenté de vous infiltrer sur le plateau.
Oui, Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat, a eu la chance de rencontrer les stars.
C'était les producteurs, puisque Matt Damon est également producteur. Ben Affleck n'était pas encore arrivé. C'était très sympa. Je leur ai dit que j'étais le shérif de cette petite ville, donc ils ont tous rigolé.
Oui, c'est Hollywood à Sarlat, ouais.
Frédéric tient une boutique de vêtements.
Bon, Matt Damon.
Écoutez, moi, c'est pas du tout mon style.
Benoît, boucher charcutier.
Ils m'ont demandé des os.
Des
os. Os, des os d'agneau, pour mettre dans leur décor.
En os donc, mais pas en chair, impossible de croiser une star.
Je sais qu'il y en a qui sont passés pas loin, qui passent dans des belles voitures, mais on voit pas parce que tout est camouflé.
Et face à ces stars invisibles, j'ai donc décidé de franchir un palier que ne doit jamais franchir un journaliste, l'usurpation d'identité. Peut-être un scénario à creuser pour Hollywood.
Bon, comme j'arrive à avoir personne, on va dire que vous êtes Ridley Scott, et je vous pose des questions et vous répondez pas forcément avec l'accent américain, vous répondez. Ridley Scott, bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir, vous parlez sans accent. Hein.
Ah oui, non, j'en ai pas, non.
Alors ce film, pourquoi ici ?
Pour le côté moyenâgeux.
Vous êtes avec votre femme, je vois, Ridley ?
Oui, Daniel.
Ah, c'est un prénom français, en fait.
Tout à fait.
Voilà,
ah, c'est tellement drôle.
Denis Grandjoux avec le Ridley Scott périgourdin.
L'histoire du jour, pour terminer.
Oui, la persévérance est la clé de la réussite, dit-on. Un passager qui avait vu ses bagages égarés lors d'un vol de Royal Air Maroc en 2015 n'a cessé de batailler depuis. Il vient d'obtenir de la part d'un tribunal 350 000 dollars de réparation, un peu plus de 313 000 euros. C'est plus que la valise RTL.
J'en parlerai au Ridley Scott périgourdin. C'était...